discussions du soir. Les discussions du soir, René Friedman.
Les discussions du soir, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Et ce soir, nous serons en compagnie d'Agnès Buzyn. Bonsoir.
Bonsoir.
Agnès Buzyn, vous êtes la présidente actuelle depuis quelques mois de la Haute Autorité de Santé, ce qu'on dit couramment l'HAS. HAS qui n'est pas très connu des auditeurs, qui n'est pas très connu même des médecins et de certaines catégories qui sont impliquées dans votre champ d'action, bien entendu. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous inviter. D'une part parce que vous avez un parcours personnel qui est assez rare. D'autre part parce que vous êtes passé à l'INCa, c'est-à-dire à l'Institut National de Lutte Contre le Cancer, en un mot, avant d'accepter donc cette responsabilité institutionnelle qui est l'HAS. Alors, on va rentrer un petit peu grâce à vous, dans cette structure un peu du système sanitaire français qui, à première vue, est quand même truffée d'un nombre d'agences. Et les sigles, les signes pullulent, on ne sait plus très bien, entre l'ASM, je veux dire l'ABM, enfin et voilà, et l'AFSAPS qui s'est changé. On ne sait plus très bien qui fait quoi. Et donc, première question, Agnès Buzyn, qu'est-ce que vous faites et pourquoi avez-vous accepté d'abord cette direction de l'HAS ?
Pourquoi accepter la Haute Autorité de Santé ? Je pense que quand on a un parcours de médecin, se voir offrir l'opportunité de présider à une institution qui, quelque part, donne le là de ce que doit être la bonne prise en charge pour les patients français, et donc une agence qui va influencer la qualité de la médecine française. Je pense que c'est vraiment ce à quoi n'importe quel médecin peut rêver dans sa carrière médicale.
Vous êtes médecin, vous gardez, quand je dis vous êtes médecin, bien sûr vous êtes professeur, mais vous gardez une activité médicale, qui plus est ?
Oui, je garde évidemment une activité de consultation. Je ne suis plus temps plein à l'hôpital, évidemment, mais je vais à l'hôpital une fois par semaine pour voir mes patients de consultation. C'est très important de garder une prise sur le réel et d'être... Je pense que ça fait la légitimité de l'action, c'est-à-dire que le risque de toutes ces agences dont vous parliez, c'est de donner une image de déconnexion de la réalité, de ce que vivent à la fois les patients et de ce que vivent les médecins et les professionnels de santé. Donc moi, j'affirme que je suis d'abord et avant tout un professionnel de santé qui progressivement, par un parcours un peu par hasard, s'est impliqué dans des questions de santé publique. Mais je n'oublie pas d'où je viens et je n'oublie pas la pratique. Et j'ai énormément de respect pour les professionnels parce que c'est un métier difficile. Donc voilà, mon parcours fait que je suis partie d'une spécialité très pointue, comme vous, mon professeur d'hématologie, Yann Ecker, spécialiste des leucémies et de la greffe de moelle, et que progressivement, on m'a donné l'opportunité de présider différentes institutions publiques. La première étant l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. On m'a offert cette possibilité en 2008, et je trouvais ça très intéressant parce que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toucher à un sujet qui effraie les Français, qui est la radioactivité, les centrales nucléaires, le risque nucléaire, la radioprotection de l'homme, et que je trouvais ça intéressant de s'investir dans des questions sociétales.
Puisque vous abordez cette première responsabilité institutionnelle, vous avez été confronté en plus, pendant cette période-là, à un événement majeur.
Oui, il a fallu gérer la crise de Fukushima. C'est vrai que personne n'est préparé à un accident nucléaire majeur. Il y a eu des décisions à prendre, même si ça n'était pas sur le sol français. Par exemple, savoir si on évacuait les Français du Japon. Voilà, des questions de santé publique.
Et puis peut-être aussi l'étude de ce modèle, si je puis dire. Parce que ça peut arriver d'une façon un peu différente, mais ça peut arriver partout.
Oui, et puis je dirais que plus généralement, c'était intéressant de regarder comment on gère une crise sanitaire. Je pense que tout médecin peut être un jour confronté dans sa pratique à une crise sanitaire. Alors, elle peut être infectieuse, elle peut être du type nucléaire, mais il y en a bien d'autres. Et ce sont vraiment des décisions difficiles. Quand on est de l'autre côté de la barrière, du côté des médias ou du grand public, on a l'impression que les choix sont simplement bons ou mauvais. Malheureusement, la situation est en permanence de chercher un équilibre entre le bénéfice et le risque de la décision qu'on va prendre. Et ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant de devoir expliquer la complexité des choses.
Est-ce que ça vous a fait changer votre opinion sur le nucléaire, on va dire, politiquement, enfin plus généralement, quoi, dans la société ?
On m'a déjà posé cette question. Non, mais je ne peux pas y répondre. J'ai toujours pensé que le risque nucléaire était un risque majeur. Et quand j'ai pris ce poste à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, je savais qu'il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe nulle part. Et le risque nucléaire, il doit simplement être posé en bénéfice-risque pour la société. On peut probablement dire qu'aujourd'hui, le bénéfice pour la société française d'aujourd'hui a été supérieur au risque. Peut-être qu'avec l'avènement des nouvelles technologies et de l'énergie, des énergies alternatives, on va pouvoir changer de modèle et passer vers un modèle où le risque sera supérieur au bénéfice.
Et vous n'êtes pas allé au Japon ? Vous
n'avez pas... Si, j'ai été au Japon.
Mais pendant cette période-là,
pas pendant cette période-là.
Vous avez goûté à la culture japonaise, c'est autre chose.
Non, mais à la suite de l'événement, les hématologues, en fait, du Japon, ont souhaité m'interroger sur la conduite à tenir pour les travailleurs de la centrale, en fait. La question qui se posait à l'époque était de savoir s'il fallait prélever leur moelle pour la conserver au cas où les travailleurs qui étaient impliqués dans le démantèlement de la centrale et dans la crise seraient amenés à faire une leucémie plus tard. Donc c'était une question compliquée.
In fine, sur ce thème-là, il y a une surveillance, je suppose, de cette population. Est-ce que vous avez des éléments, puisqu'on est un peu à distance, inquiétants, préoccupants, pas du tout ? Est-ce qu'on sait quelque chose, finalement, un peu avec le recul ?
Alors, moi j'ai quitté l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire juste après la crise pour reprendre la direction de l'INCa, de l'Institut National du Cancer, et donc je ne suis plus vraiment en prise avec l'actualité. Ce que je sais, c'est qu'à l'époque, on avait des inquiétudes sur la façon dont la population autour de la centrale avait été mise à l'abri. Et donc, je ne serais pas surprise qu'il y ait un excès, par exemple, de cancer de la thyroïde. Je pense que ces populations font l'objet d'un suivi très étroit avec des registres. Voilà, je ne suis plus au courant dans le détail. Et concernant les travailleurs de la centrale, j'ai pas d'éléments objectifs.
Mais ce qui va être intéressant, c'est ça, c'est cette évolution, ce suivi, maintenant.
Absolument.
Faut pas l'oublier uniquement au moment de la catastrophe, quoi. Alors ensuite, on disait que votre goût pour l'institution, pour l'organisation de la santé est venu d'une proposition, plusieurs propositions, puisque ensuite vous êtes nommé donc à la direction de l'Institut National du Cancer. Et vous allez suivre, en tous les cas, le plan cancer, les fameux plans cancer, puisqu'il y en a plusieurs, et vous allez même promouvoir, parce que vous faites un quinquennat. Vous aimez bien le quinquennat, vous ?
Oui, j'aime bien le mandat unique, aussi. Donc je n'ai toujours fait qu'un mandat dans les institutions que j'ai présidées, effectivement.
Encore 5 ans à la HAS.
Voilà. L'INCa a été une aventure absolument passionnante, parce que effectivement c'était la fin du deuxième plan cancer, qui avait permis déjà de grandes avancées en termes d'organisation du territoire. Et déjà, les deux premiers plans cancer français, le premier avait été lancé par Jacques Chirac et le deuxième par Nicolas Sarkozy, ont toujours été considérés comme un modèle du genre par les autres pays européens. Et je crois que les Français ne savent pas à quel point...
Qui n'existe pas ailleurs ?
Il y en a, mais qui sont beaucoup plus ponctuels, soit sur le champ des dépistages, soit sur le champ de la recherche, mais il n'y a pas de plan qui donne une vision... intégrer une vision globale de tout ce qu'on peut faire pour améliorer la lutte contre le cancer. La spécificité des plans de cancer français, c'est qu'ils couvrent à la fois la prévention, les dépistages, la qualité des soins, la recherche clinique, la recherche fondamentale. Et ça, c'est unique Il n'y a pas d'autres agences comme l'INCa à travers le monde. Les agences qui luttent contre le cancer dans différents pays sont focalisées sur une activité, soit promouvoir la recherche, soit promouvoir l'organisation des dépistages, mais c'est assez limité. Donc cette vision globale et intégrée, elle fait la puissance des plans cancer français, et je trouve que les politiques, comme les citoyens, ne savent pas la chance que nous avons. Et ça se traduit dans les faits, puisque une étude publiée dans le Lancet il y a maintenant 3 ans ou 2 ans avait montré que les patients atteints de cancer en France avaient une des meilleures survies de tous les pays européens, notamment la meilleure survie pour le cancer du sein. Et je pense que ça n'est pas un hasard. Alors évidemment, les médecins français sont très bons, mais toute l'organisation qui va avec la prise en charge du cancer quand même favorise un bon accès aux soins, un accès rapide, un accès aux innovations, un accès aux médicaments. Et donc ça, on peut
remercier ces plans cancer. Vous-même cette lutte contre l'inégalité justement des Français
oui.
par rapport à une maladie aussi grave que le cancer. C'était un de vos... cheval de bataille.
Absolument. Donc on m'a donné l'opportunité pendant ce quinquennat, comme vous dites, de pouvoir élaborer le 3e plan cancer français qui a été donc lancé par François Hollande en 2014. Et c'était un plan qu'on a voulu très ambitieux. Et notre leitmotiv, je dirais notre fil rouge, c'était qu'il n'y ait pas de perte de chance. C'est-à-dire que face à cette maladie, personne ne puisse se dire « j'ai eu moins de chance que mon voisin et je risque de mourir parce que je n'ai pas eu de chance, je n'ai pas eu accès aux soins, je n'ai pas eu accès à tel médicament, etc. » Ça, je pense que quand on a une maladie grave, mortelle, c'est insupportable, tant pour le patient que pour la famille, et ça ne doit pas exister. Alors, je ne dis pas que... on a tout réglé.
Que tout est résolu.
Mais bien sûr que non.
Sur quoi vous avez insisté alors pour essayer de diminuer ce déséquilibre, en tous les cas, voire de l'abolir ?
On a essayé de repérer ce qui, dans le parcours de soins des gens, on parle du parcours de santé, y compris de la prévention, de repérer les moments clés qui font que une personne, tout d'un coup, ne va pas rentrer dans le bon circuit, ou ne va pas accéder à l'information, ou va avoir un retard de prise en charge. Donc on a essayé vraiment de couvrir ces moments qui font qu'une personne va avoir moins de chances que quelqu'un de bien orienté.
Mais est-ce que c'est pas le fait que, par exemple, dans le traitement du cancer, puisqu'on parle de ça, il y a quand même plusieurs possibilités d'action qui souvent se conjuguent, même s'il y a eu des évolutions, entre la chirurgie, la médecine, la radiothérapie, etc. Et que souvent, il n'y a pas de référent qui englobe et que les patients sont un peu perdus parce que il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel, il faut aller voir le troisième.
C'est une vision ancienne.
Mais est-ce qu'elle a changé
Le premier plan cancer français a mis en place quelque chose d'unique au monde, qui est l'obligation pour tous les patients atteints de cancer d'avoir son dossier médical discuté en RCP. RCP, ça veut dire réunion de concertation pluridisciplinaire. Ça veut dire que quand on a un cancer diagnostiqué, aucun médecin ne peut prendre une décision de traitement seul. La décision doit être prise par un collectif comprenant un radiothérapeute, un chimiothérapeute, un chirurgien, un anapathe, un radiologue. Et c'est ça qui fait la différence, puisque ça harmonise les prises en charge.
Alors ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, bien sûr, je l'ai vécu moi aussi, mais le patient, le référent du patient, là il y avait une difficulté en tous les cas à avoir quelqu'un qui soit peut-être le porte-parole de cette réunion collective.
Alors après, ça dépend des organisations de chaque service. En tous les cas, ce à quoi nous avons fait attention, c'est harmoniser les prises en charge sur le territoire. Il n'est pas concevable que quand on a un cancer du sein, on soit pris en charge différemment quand on est traité à Lille ou dans l'hôpital de proximité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas, qui n'avait pas de substratum scientifique. Et donc, nous avons cherché à rédiger des référentiels de prise en charge des patients qui soient communs à l'ensemble du territoire et qui reposent sur des bases scientifiques solides.
Alors justement, dans ce processus, parfois il y a des francs-tireurs qui font pas tout à fait la médecine telle qu'on la conçoit, qui certains vont jusqu'au charlatanisme, mais il y a eu par exemple l'histoire pour les cancers de l'enfant du docteur Delepine qui a été contesté, et vous étiez, je crois, à ce moment-là.
Oui, absolument.
Comment ça s'est passé, la difficulté de dire à un médecin, mais non, vous ne faites pas les protocoles, vous ne faites pas une étude scientifique?
Je crois que cette équipe a quelque part a joué sur une fibre sensible et que je comprends, qui était, on ne peut pas protocoliser tout et chacun a le droit à une prise en charge individualisée. Ça, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est la médecine d'aujourd'hui et ce qu'est un protocole. Un protocole ne fait pas fi des particularités du malade. Un protocole, et c'est écrit dans toutes les recommandations de bonne pratique, il est général et il doit être adapté à la personne et à sa spécificité. Mais un protocole, il permet au moins à chacun de savoir ce que sont les pratiques validées à travers le monde et qui donnent les meilleurs résultats. Après, ce protocole, il ne s'applique pas comme une recette de cuisine. Il est individualisé et c'est la règle de l'exercice médical, c'est de prendre en compte l'individu qu'on a devant soi. Donc Madame de Lépine jouait sur les mots en disant les protocoles font fi de la particularité, de la singularité du malade. Non, c'est faux. Chaque protocole doit être adapté et c'est écrit quand vous lisez un référentiel de bonne pratique, c'est rédigé.
Mais c'est-à-dire que si en plus on fait une attitude de traitement qui elle-même se généralise, devient quasiment un pseudo-protocole, mais qui n'est pas comparé, qui n'est pas évalué.
C'était l'autre problème. Vous avez raison, Madame de Lépine disait qu'elle détenait effectivement des traitements de très bonne qualité, mais Madame de Lépine et l'équipe de Garche ne participaient pas aux essais cliniques qui permettaient de comparer, de valider les méthodes. Donc je ne peux pas dire que les méthodes qu'elle utilisait n'étaient pas bonnes, je dis simplement que nous n'avions aucun moyen de vérifier. Et donc ça, ce sont les règles de la bonne pratique clinique aujourd'hui, c'est que on doit s'interroger sur sa pratique, et pour s'interroger sur la pratique, il faut la confronter à la pratique des autres.
3 millions de personnes vivent avec un cancer dans notre pays, et vous avez aussi insisté sur ce qu'on a appelé le droit à l'oubli.
Oui.
Pouvez-vous réexpliquer ce que c'est ?
Alors, le droit à l'oubli était porté par quelques associations de patients. Ça a été un arbitrage du président de la République qui a souhaité que ce droit à l'oubli soit inscrit dans le plan cancer. Et ça a été d'une très grande difficulté à mettre en œuvre, car pour faire inscrire le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit de ne pas déclarer sa maladie aux assureurs après un certain délai, après le diagnostic ou après les traitements, il a fallu se battre contre les assureurs. Et les assureurs, c'est un secteur privé, concurrentiel, qui à un moment peut dire « si vous me tordez trop le bras sur mes contrats d'assurance, je n'assurerai plus les gens ». Donc le risque, c'était qu'ils se désengagent et ne souhaitent plus assurer les patients français. Donc il fallait trouver cet équilibre entre faire accepter le fait que certains patients sont guéris et ont le droit de ne plus déclarer, faire accepter ça par les assureurs sans les braquer. Et nous l'avons fait à l'INCa avec une technique qui était imparable, qui était de leur montrer les chiffres des guérisons, c'est-à-dire de partir des registres du cancer français, de la réalité des faits, et de montrer des chiffres qui prouvaient que certains patients n'avaient aucun risque de rechute au-delà de 5 ans et qu'il n'y avait aucune raison d'imposer à ces patients-là des surprimes, des coûts supplémentaires. Et donc nous avons obtenu ce droit à l'oubli pour tous les patients à partir de 10 ans après la fin des traitements, pour tous les enfants qui ont eu un cancer avant l'âge de 18 ans, dès 5 ans après la fin des traitements, et pour certains cancers après des périodes de 2 ans, sur la base, simplement sur la base, d'études scientifiques.
Oui, donc ça c'est... On va retrouver d'ailleurs cet engouement pour les études scientifiques, enfin cette base, c'est pas un engouement, c'est une réalité, dans votre nouvelle position en tant que directrice de l'HAS. Mais restons encore un tout petit peu sur le cancer, puisque vous avez été à la tête de l'INCa pendant 5 ans. Aujourd'hui, beaucoup de chirurgie ambulatoire, beaucoup de radiothérapie un peu différente, c'est-à-dire plus les grandes séances, mais même parfois péropératoire, pendant qu'on dort, on reçoit la radiothérapie. Des médicaments, évidemment, qui ont révolutionné le traitement, plus personnalisé. Là, on va faire le lien avec cette nouvelle fonction que vous occupez, Anne-Sophie, mais comment vous voyez l'évolution de la lutte contre le cancer?
Alors, on a vraiment changé de paradigme ces dernières années, c'est-à-dire qu'on a d'une part une accélération du progrès technologique qui est essentiellement liée au progrès de la science fondamentale et de la recherche fondamentale. et de la connaissance de la biologie des tumeurs. Donc il y a une accélération des processus d'innovation thérapeutique et une individualisation de plus en plus grande des prises en charge. Ça implique différentes choses. D'une part, ça implique le fait que à la fois les médecins et à la fois les malades veulent s'emparer de l'innovation très vite, et c'est légitime. On a tous envie de ce qui est nouveau. Et donc, il ne faut pas freiner cet engouement. Il répond à un besoin, notamment face à des maladies parfois très graves. On comprend que les gens aient envie de tout essayer. Mais il implique aussi pour les agences dont j'ai la responsabilité, et maintenant la Haute Autorité de Santé, qui évalue les nouveaux médicaments, qui évalue les nouveaux dispositifs médicaux ou les nouvelles techniques. Par exemple, la radiothérapie péropératoire en fait partie. Cela nous impose quand même des règles strictes. C'est-à-dire qu'on est face à cette contradiction sociétale de personnes malades qui veulent accéder à l'innovation le plus vite possible et à tout prix, et c'est légitime, et d'une autre partie de la société qui veut la sécurité, et notamment la sécurité sanitaire, et qui ne supporte plus l'idée qu'il puisse y avoir des scandales sanitaires. Donc ça nous impose de ne pas freiner l'innovation, mais de garder une forme de rigueur scientifique indispensable à l'évaluation. Et toute innovation n'est pas toujours miraculeuse. Parfois, sur le plan théorique, on peut croire qu'une innovation va vraiment apporter un bénéfice. Et puis, dans la pratique, quand on regarde les études cliniques, elle induit des effets secondaires inattendus, elle expose à des problèmes d'organisation des soins qui, en fait, ralentissent l'organisation et la prise en charge. Bref, toute innovation doit être évaluée. C'est le rôle de la Haute Autorité de Santé, puisque dans une de nos grandes missions, c'est d'évaluer à la fois les produits de santé, c'est-à-dire médicaments, dispositifs médicaux, et à la fois les nouveaux actes thérapeutiques, en vue de leur remboursement. En fait, rien n'est remboursé par la Sécurité sociale aujourd'hui sans qu'il n'ait été évalué scientifiquement pour l'intérêt qu'il apporte aux malades par la Haute Autorité de Santé.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de fond, je veux dire, à laquelle il faut jouer, c'est que on peut pas avoir les résultats de quelque chose d'innovant qui n'a pas encore fait ses preuves, mais on peut avoir peut-être une méthodologie.
Il y a moyen de parer à ça, notamment sur les dispositifs médicaux. Il y a maintenant ce qu'on appelle le forfait innovation, qui permet d'implémenter une innovation sur le territoire, de la financer même pour que les personnes y aient accès, tout en l'évaluant, c'est-à-dire en obligeant l'industriel qui développe l'innovation à mettre en place un registre, une observation, une étude clinique qui permette à la fin, à la Haute Autorité, d'évaluer. Donc l'idée, c'est de ne pas freiner, de laisser la possibilité à une innovation de rupture de se déployer très tôt sur le territoire avant que nous ayons toutes les études qui prouvent vraiment son intérêt, mais de s'assurer qu'au bout d'un an, deux ans, on aura suffisamment d'éléments de jugement, suffisamment de données pour pouvoir réellement évaluer l'intérêt in fine du dispositif.
Mais
et pouvoir
ça, ça veut dire qu'il faut, Agnès Buzyn, il faut beaucoup de cas pour pouvoir donner les réponses.
Pas forcément. Il y a des méthodologies qui permettent, notamment dans les pathologies orphelines, de donner un avis sur très peu de cas. Le malade peut être son propre témoin, c'est-à-dire qu'on peut simplement voir l'amélioration de sa qualité de vie avant qu'il bénéficie d'une innovation et après. Et ça, c'est déjà une façon d'évaluer une méthode ou un dispositif. Donc il y a plein de méthodes qui ne nécessitent pas forcément ce qu'on appelle des études randomisées avec 1000 patients tirés au sort dans chaque bras, ce qu'on appelle les grands essais cliniques de phase 3. Les grands essais cliniques de phase 3 qui nécessitent beaucoup de patients impliqués dans l'étude sont nécessaires pour certains produits. Notamment lorsque le bénéfice est assez faible, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes qui ont accédé à l'innovation pour pouvoir prouver le bénéfice, mais parfois quand le bénéfice est très important, ce qu'on appelle les innovations de rupture, très peu de cas, très peu de patients suffisent. Et dans les nouveaux médicaments de lutte contre le cancer, la FDA américaine, qui est l'agence qui autorise la mise sur le marché des médicaments aux États-Unis, a autorisé des médicaments innovants sur des études portant sur 40 personnes.
Donc peut-être un nouveau dynamisme dans cette nécessité d'évaluation en fonction bien sûr de chaque situation. Vous êtes sur France Culture, les discussions du soir de René Frydman, en compagnie ce soir d'Agnès Buzyn, présidente de l'HAS, une émission en partenariat avec le quotidien du médecin. Oh,
es hin, wie bleicht sein Angesicht.
Das ist die Ursache all der solchen
Klagen. Der Richter für die vor Gericht, da ist kein Trost, kein Helfer nicht.
Discussion du soir de René Friedman en compagnie d'Agnès Buzyn. Vous êtes donc présidente de la Haute Autorité de Santé. On disait en début d'émission que ça manquait un peu de visibilité, c'est-à-dire qu'on ne savait pas tout à fait à quoi ça servait. Or pourtant, c'est un poste qui est proposé par le président de la République, quel qu'il soit, et voté par les deux assemblées, donc le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc vous devez avoir un rôle important.
Écoutez, j'espère, quand on prend des fonctions, c'est en général qu'on a envie de faire bouger les lignes et bouger les choses. Donc oui, c'est une autorité qui a un rôle important, puisque d'abord elle définit les bonnes pratiques médicales.
Dans tous les domaines.
Dans tous les domaines.
Alors, vous êtes combien de la santé?
Alors, nous sommes 400. Mais nous travaillons énormément avec des professionnels de santé. Donc les recommandations sont élaborées par des groupes de travail, quelque part extérieurs à la Haute Autorité de Santé, mais animées, coordonnées par la Haute Autorité de Santé. Et la Haute Autorité de Santé se porte garante des méthodes d'élaboration et se porte garante de l'indépendance des experts que nous sollicitons.
Oui, justement, vous avez 3000 experts à peu près, enfin je sais pas, quelque chose comme ça, souvent. Il n'y a pas de conflit d'intérêts?
Chaque expert peut avoir des liens d'intérêt avec tel ou tel industriel. La question est, faut-il avoir des experts qui n'ont aucun lien d'intérêt, jamais, ou faut-il prendre des experts et veiller à ce que lorsqu'on les sollicite, on les sollicite sur une question où leur lien d'intérêt n'aura aucun impact. On peut par exemple tout à fait imaginer qu'un expert travaille avec un industriel sur un médicament, mais qu'on le sollicite parce qu'il connaît très bien une pathologie et qu'on va lui demander de répondre à une question sur la prévention. Et donc c'est ce travail-là où on vérifie l'adéquation de l'expert d'abord avec sa compétence à la question qu'on lui pose, et on vérifie que sur la question qui lui est posée, il n'a aucun lien d'intérêt qui pourrait nuire à l'indépendance de l'expertise.
Vous êtes donc une autorité administrative indépendante.
Oui, la seule dans le domaine de la santé.
Cependant, vous êtes indépendante, mais vous avez peu de possibilités de vous auto-saisir, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire de décider vous-même de travailler sur tel ou tel domaine, parce que vous êtes peut-être envahi par les commandes ministérielles, mais peut-être pas uniquement.
Alors, on est indépendant, c'est-à-dire qu'on est garant de l'indépendance des réponses que nous apportons. C'est-à-dire que nous ne répondons pas à une commande politique en termes de recommandations. C'est-à-dire que personne ne nous fera adopter une recommandation que nous n'estimons pas légitime sur le plan scientifique. C'est ça l'indépendance.
Vous avez marqué votre indépendance quand il s'agissait de réformer la loi Evin, par exemple.
Oui, sur le tabac et l'alcool, je pense que
vous avez
j'ai pris
fait
position.
Entendre votre voix, absolument.
Absolument.
Donc on peut vous faire confiance a priori.
Voilà. Donc, par contre, effectivement, on répond aux besoins des ministères. C'est-à-dire que si les ministères ne savent pas comment traiter un sujet de société aujourd'hui. Je pense par exemple à l'autisme, qui est un vrai sujet sociétal, médical, sociétal, d'organisation des soins, de pratiques, de bonnes pratiques. Le ministère nous demande de faire des recommandations sur l'autisme, et là, évidemment, nous allons répondre oui à cette demande. Ce qui ne veut pas dire que la façon dont nous allons élaborer la recommandation va forcément plaire au pouvoir public. Ça, je ne le sais pas, et ça n'est pas mon objet. Ce qui est intéressant dans la Haute Autorité de Santé, c'est donc cette indépendance de l'expertise, et c'est le fait que tous nos avis reposent sur une analyse rigoureuse de la littérature scientifique. Et d'ailleurs, nous sommes là seule autorité publique indépendante à avoir ce qu'on appelle à caractère scientifique, c'est-à-dire d'avoir la reconnaissance du fait que nous travaillons sur les données de la science.
Évaluation des médicaments, pertinence des traitements, donc c'est votre première mission, on va dire.
Oui.
Enfin, une de vos missions, je ne sais pas si vous la mettez en tête. Et puis, ça va aboutir aussi au problème du prix.
Absolument.
Le problème du prix, c'est extrêmement complexe, parce qu'on voit bien que les nouveaux médicaments coûtent très cher, et qu'on peut se poser des questions, comment sont fixés les prix ? Est-ce que c'est en fonction de la quantité de médicaments, du volume, ou de leur pertinence ?
Alors, c'est là où la Haute Autorité de Santé a un rôle à jouer, puisqu'en fonction de l'évaluation de ce qu'on appelle l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire en quoi le médicament apporte un plus par rapport au médicament existant, c'est sur cette base de l'amélioration du service médical rendu que va être négocié le prix avec les industriels. Cependant, il ne faut pas se leurrer. Les mécanismes de fixation du prix sont des mécanismes internationaux. Et donc, la marge de manœuvre de chaque État pour négocier le prix avec les industriels est en fait relativement faible. Il y a une forme d'accord qui veut que les prix soient assez harmonisés au niveau européen. Et en plus, les prix européens dépendent souvent de la négociation de prix qui a eu lieu aux États-Unis un peu avant, puisqu'en général, la mise sur le marché aux États-Unis précède la mise sur le marché européenne. Donc, nous sommes assez contraints en termes de négociation. Et c'est la raison pour laquelle ce sujet a été porté au G7 de la santé, au Japon cette semaine, parce que chaque pays seul n'a une marge de manœuvre que très faible, et ça nécessite probablement d'avoir une vision globale et internationale.
Le traitement de l'hépatite C, 75 000 euros avec le nouveau traitement par personne. Alors, ça fait 15 milliards.
Je ne sais pas si la question du prix doit être évoquée dans l'absolu. La question du prix aujourd'hui à la Haute Autorité de Santé, on l'évalue en termes d'efficience, c'est-à-dire du prix par rapport aux bénéfices attendus. Il se trouve que quand on regarde l'hépatite C, ces médicaments apportent une guérison aux malades et à des malades très graves.
Il est vrai qu'on guérit.
On guérit de l'hépatite C.
C'est des patients qui avaient des remarquables, sirops. Hein, la durée entre la découverte et la réalisation est quand même remarquable. Faut le féliciter.
Donc, quelque part, ces médicaments, dans l'indication des hépatites C sévères, est efficient. C'est-à-dire que le bénéfice est tel que, quelque part, il justifie un prix élevé. Je ne dis pas ce prix-là, parce que je n'ai pas d'avis à donner sur le prix. La négociation ne dépend pas de la Haute Autorité de Santé. Mais l'efficience est à garder en tête. Là où on s'interroge plus, c'est effectivement quand un produit coûte ce prix-là, 75 000 euros, mais qu'à l'arrivée, il apporte 3 mois de survie en plus. Et c'est là où l'efficience n'est pas au rendez-vous.
Évaluation des bonnes pratiques. On est obligé un peu d'accélérer parce que le temps passe avec vous, Agnès Buzyn, mais vous êtes aussi sur la santé connectée, sur la télémédecine.
Absolument. La télémédecine, elle doit un peu être réglementée. C'est un outil extraordinaire. Il répond évidemment déjà à la difficulté des déserts médicaux, mais il va apporter une rapidité, une réactivité dans le système, une souplesse. Donc c'est un outil extraordinaire. Mais ce dont nous devons nous porter garant à la Haute Autorité de Santé, c'est qu'il faut qu'à l'arrivée, le service médical rendu soit équivalent à une consultation ou à un acte tel qu'il est réalisé aujourd'hui. Donc ça nécessite quand même une évaluation, même si l'outil est génial, tous les outils ne sont pas égaux, et tout le service rendu à la fin ne sera pas de la qualité que nous estimons nécessaire par rapport à l'existant.
Est-ce que vous comptez mettre en place des indicateurs comme la Suède l'a fait, auxquels les patients participent sur... par exemple, l'évolution du poids de naissance à 4 ans pour l'obésité, l'existence de caries à 19 ans, la prise du tabac ou de l'alcool pendant la grossesse. Enfin, des points sur lesquels on a peut-être des reflets de la bonne santé de la population, mais c'est peut-être pas exhaustif. Hein.
C'est la troisième compétence de la Haute Autorité de Santé. La première, c'est l'évaluation des médicaments, des dispositifs et des actes. La deuxième, c'est les recommandations de bonnes pratiques pour les professionnels, pour harmoniser les prises en charge. Et la troisième mission, c'est de certifier la qualité de la médecine française, et notamment, nous certifions tous les établissements de santé.
Est-ce que vous pensez que certifier les établissements sans certifier la médecine de ville, c'est
alors,
c'est
correct? Vous touchez du doigt ce qui va être probablement dans notre projet stratégique à venir. Je pense que la Haute Autorité de Santé doit s'engager dans une forme d'évaluation de la qualité des actes pratiqués dans le secteur ambulatoire, dans la médecine de ville. Aujourd'hui, la Haute Autorité de Santé, c'est historique, parce qu'elle provient d'une autre agence qui existait bien avant, évalue essentiellement la qualité de la médecine hospitalière. Ça ne peut pas suffire, évidemment. Et donc, les indicateurs dont vous parliez, c'est une façon d'évaluer la qualité de ce qui est fait en ville. Donc, nous sommes en train de développer et de monter en charge sur les indicateurs de qualité de la médecine. C'est pour moi un sujet majeur de légitimité de la HAS dans les années qui viennent, parce que si l'on veut garantir au public français, aux citoyens, une très bonne qualité de médecine, on doit s'interroger sur la qualité de la médecine, autant dans le secteur ambulatoire que sur le secteur hospitalier.
Quand vous parlez comme ça de la médecine hospitalière, de la médecine de ville, on sent que vous avez en main un peu l'organisation du système de santé qui pourtant n'est pas tout à fait dans vos prérogatives. Or, quand même, vous y touchez du doigt. Par exemple, si vous certifiez l'établissement comme l'Hôtel Dieu, se pose la question, fallait-il garder, faut-il pas garder l'Hôtel Dieu, etc. Donc, vous êtes dans cette approche du parcours de soins, ville-hôpital, automatiquement amené à penser à l'organisation sur une échelle régionale, nationale. Je ne sais pas quel est votre sentiment là-dessus.
On est un des acteurs qui intervient dans cette organisation du paysage régional. Il est clair que quand on décide de ne pas certifier un établissement, ça peut amener à la fermeture d'un établissement, mais ça se fait en concertation avec l'agence régionale de santé qui gère le territoire. Parce que si cet établissement est unique dans le territoire et si tout d'un coup les malades se retrouvent dans un désert médical, la fermeture n'est pas automatique. L'agence régionale de santé peut décider tout d'un coup d'accompagner l'établissement, de changer le directeur, de changer l'équipe médicale. Voilà, donc il y a tout un processus d'accompagnement. On est un des acteurs, mais il est évident que quand la Haute Autorité de Santé sanctionne un établissement parce qu'il ne gère pas bien ses risques, parce que son bloc opératoire ne fonctionne pas bien, parce que le circuit de médicaments n'est pas sécurisé, etc. Ça a un impact, évidemment.
Mais Agnès Buzyn, comment vous allez faire? Quels sont les points qui montrent de votre certification? Qu'est-ce que vous regardez précisément?
Alors, aujourd'hui, la certification, elle évolue en fait tous les 4-5 ans. Quand la certification des hôpitaux a commencé il y a 20 ans, on regardait le fonctionnement des ascenseurs, les risques incendies. On n'en est plus du tout là. On essaye de se rapprocher petit à petit de l'évaluation des pratiques médicales. Aujourd'hui, on regarde essentiellement comment l'établissement gère ses risques, le médicament, le bloc opératoire, l'endoscopie, la maternité. Mais on ne regarde pas encore totalement la pratique médicale. On commence à le regarder avec ce qu'on appelle le patient traceur, c'est-à-dire qu'on interroge les patients sur leur parcours au sein de l'établissement. Mais ce qui va nous permettre de regarder réellement la qualité des soins, c'est de disposer d'indicateurs médicaux. Le taux de réhospitalisation après une prothèse de hanche, la survie après telle chirurgie. Voilà. Et ça, nous allons monter en charge sur les indicateurs purement médicaux pour que les médecins adhèrent mieux à ce processus de certification.
J'ai vu un certain nombre de services hospitaliers, pas beaucoup, je dois dire, qui affichaient dans le couloir, par exemple, le taux de réhospitalisation, donc le taux de complications, on va dire. Et je vais essayer, en tous les cas, peut-être pas destiné au public, mais dans mon service, de faire la même chose entre les médecins, déjà, de savoir. Et c'est vrai que, déjà, de s'auto-évaluer hein, par des indicateurs aussi simples que ceux-là, comme la réhospitalisation, surtout dans un service de chirurgie ou de maternité, ça donne tout de suite, quand même, ça alerte ou ça n'alerte pas. Je veux dire, il y a un taux acceptable, un taux qui ne l'est pas.
En fait, mon rêve serait que les médecins...
Ah, enfin !
Oui.
Agnès Buzyn, rêve.
serait que les médecins s'intéressent à ces questions de qualité de pratique. Je ne dis pas qu'ils ne le font pas, mais s'autosaisissent. C'est-à-dire le jour où les médecins afficheront eux-mêmes, effectivement, leurs résultats, quelque part, la Haute Autorité de Santé n'aura plus de raison d'être et on arrêtera de lui plaquer cette image un peu d'administration froide, déconnectée. Moi, je préférerais évidemment que ce soit une dynamique dont la profession médicale s'empare, de se comparer, de comparer les pratiques, de s'auto-évaluer et surtout de les afficher, de les rendre publics pour les malades. Aujourd'hui, nous le faisons, nous avons un site internet qui s'appelle Scope Santé, où sont données toutes les notes que nous donnons aux établissements sur leur management des risques, sur la qualité des pratiques. Mon rêve serait que chaque hôpital affiche ses propres résultats et que ça crée de l'émulation et que globalement on améliore la qualité des soins partout.
Alors écoutez, très sincèrement, je partage votre rêve pour l'avoir tenté. Mettre insurgé, en tous les cas par exemple, sur la procréation médicalement assistée, l'incapacité d'avoir des résultats simples, parce que l'agence de biomédecine donne des résultats incompréhensibles, totalement incompréhensibles pour le Quidam, et ça c'est pas normal, et c'est pas tellement à l'hôpital, enfin c'est à l'hôpital bien sûr, mais c'est dans le service, vous allez pour un traitement, vous pouvez pas endosser forcément ce qui se passe à côté, mais si vous allez pour un traitement pour certains, et qu'il y a... Donc est-ce que ça pourrait pas être, je dirais, une recommandation, puisque l'HAS fait des recommandations, une recommandation forte que les services doivent évaluer leurs pratiques et choisir peut-être eux-mêmes certains indicateurs.
On y vient. Alors déjà dans le plan cancer, c'est quelque chose que j'ai fait inscrire comme un objectif du plan cancer, c'est-à-dire que les services de cancérologie devront à terme afficher leurs résultats et les rendre publics, parce que les gens ont besoin de savoir, c'est légitime. Et progressivement, j'espère que cette obligation de rendre compte s'étendra à toute la médecine, et pas seulement la médecine hospitalière, mais également la médecine ambulatoire.
Oui, je crois vraiment que c'est une urgence, cette évaluation qui vous tient à cœur et qui me tient également à cœur, qu'elle soit prise en compte à tous les niveaux, peut-être pas par 40 items, mais peut-être par un ou deux qui soient assez pertinents, qui soient le début de quelque chose.
Alors, je voudrais insister, peut-être que des médecins nous écoutent. C'est très angoissant pour les médecins d'entendre parler d'évaluation vue d'une haute autorité. Et c'est vrai qu'on sent une sorte de rejet de cette... Je dirais de cette tendance à évaluer. C'est pour ça que mon rêve, c'est que les médecins s'emparent de la problématique. Ça n'est pas une problématique administrative, c'est ce que nous devons aux malades, en fait. Et donc, comme mon seul objectif, c'est qu'à l'arrivée, à la fin de mon mandat, la médecine française soit de meilleure qualité ou de la meilleure qualité possible, j'aimerais que les médecins m'accompagnent dans cette aventure et que ce ne soit pas une démarche administrative ou vécue comme administrative. Elle est avant tout une démarche médicale.
Vous avez tout à fait raison de cette crainte d'étaler ces résultats, et pourtant c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est de savoir ce qui se passe pour pouvoir encore mieux faire, et déjà c'est pas si mal, mais voilà, il faut conforter et accompagner, en tous les cas peut-être inciter, moi je vous incite à inciter en tous les cas les médecins à participer eux-mêmes là-dessus. Vous connaissez bien l'hôpital, vous avez eu une période difficile, comme quoi il y a aussi des médecins qui bloquent les femmes, qui bloquent les carrières, qui bloquent les résultats transparents. On y reviendra peut-être dans une autre discussion, mais tout ça pour dire qu'il faut effectivement faire bouger un certain nombre de choses. Merci en tous les cas à Agnès Buzyn d'être venue avec nous pour nous expliquer ce que c'est l'HAS et ce que va être l'HAS sous votre direction. Merci à Catherine Donnet, Didier Lagarde, Jean-Louis Deloncle. Vous pouvez podcaster cette émission et la réécouter sur le site internet de franceculture.fr et sur le site de notre partenaire, le quotidien du médecin. La semaine prochaine, je vous retrouve avec Xavier Emmanueli.